Bonjour messieurs, qu'est-ce que vous prendrez?
Deux cafés, merci.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café Rôliste. Je suis aujourd'hui avec, enfin Café Rôliste ou Thé Rôliste, on va appeler ça aujourd'hui. On a fait des bières rôlistes, on va faire un thé rôliste aujourd'hui. Je suis avec Willem, Orm, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, Orm.
Non.
Sinon c'est sympa.
La question démarre vite dans cet échange.
On s'est rencontrés, un peu comme, comme Jocelyn pour le dernier Café Rôliste, on s'est rencontrés lors du Elderfest, où on était chacun invité, on était en tant qu'invité. Chacun dans notre partie, donc moi j'étais venu pour faire un papier pour un site Ludovox, et toi t'étais venu pour faire, j'imagine aussi des articles, ou pour parler un petit peu de l'Elderfest, ou surtout de ton podcast.
Moi j'étais venu avec deux casquettes,
ouais.
La première c'était que, effectivement pour assister à l'événement et parler notamment via Zone 52, qui est un podcast de... qui traite un peu tous les mauvais genres. Donc avec une équipe de, on est 5 en tout, une équipe de 4 autres compères, et puis aussi pour annoncer en fait un projet que j'ai de fiction audio que je fais en partenariat avec Eldercraft, qui aura lieu en 2022.
Un projet de
fiction audio.
Ah, de fiction, d'accord. Est-ce que c'est lié à ce que tu fais déjà à Star Wars?
Non, c'est, la prochaine sera pas liée à Star. Enfin oui. Tout est lié à Star Wars de toute façon. Non, évidemment c'est lié à Star Wars, mais là en fait je démarre une nouvelle fiction audio qui aura lieu dans un univers de science-fiction 100% original. Là on part d'une page blanche, puisqu'avec Star Wars on s'éclate, moi, j'adore, et je pense que les gens qui écoutent s'éclatent aussi, mais on atteint des limites à un moment qui sont celles que y a des droits sur la création, et si tu veux aller plus loin, si tu veux prendre plus de temps, mettre plus d'énergie et plus de moyens, il y a un moment où il faut dégager des revenus quelque part, et avec Star Wars, c'est pas possible.
C'est marrant, parce que c'est une question que je m'étais posée, parce que moi j'ai écouté la première saison, je voulais savoir un petit peu de quoi ça parlait, et franchement je me suis laissé embarquer dedans, parce que c'est drôle, je trouve que c'est bien écrit, il y a des trucs... je trouve que vous amusez bien, vous êtes deux. Et sur cette première saison, il y a deux protagonistes qui racontent des conneries. Et puis, il y a quand même une aventure derrière. C'est pas juste deux mecs qui racontent des conneries. Il y a quand même une aventure derrière. Et j'ai trouvé ça très drôle. Et justement, je me posais la question de savoir comment tu pouvais le diffuser, du coup, sans payer des droits, j'imagine.
Je paye absolument pas. Dans l'univers Star Wars, enfin, pas dans l'univers Star Wars, mais dans l'histoire de Star Wars et de sa relation avec ses fans. Star Wars, c'est une des licences qui tolère le plus les fanfictions.
On ne fait pas une fanfiction sur Tintin, par exemple.
On ne fait surtout pas de fanfiction sur Harry Potter, par exemple.
Sur Harry Potter,
ça se passe très mal.
Okay.
Sur Star Trek, ça se passe pas toujours très bien non plus.
Okay.
Et Star Wars, à partir du moment où tu ne mets pas de publicité, où tu ne proposes pas un contenu payant ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu offres à la communauté une proposition de fans, il n'y a pas de problème. Et je sais qu'ils sont au courant que les trois saisons des Chroniques Galactiques, parce que ça a vite, au fil des saisons, l'audience a beaucoup grimpé. Mmh. On a franchi la barre du million de téléchargements.
Du million de téléchargements?
Ouais.
Ah ouais,
ouais, ça a bien. Étonnamment, parce qu'on a monté ça, on voulait bien le faire, on s'est donné à fond pour bien le faire et tout, mais c'était avant tout pour s'amuser, quoi. Et du coup, je sais que ils sont au courant, puisque mes antennes me l'ont dit, via le réseau que j'ai. Et puis, en plus, j'ai observé un nombre anormalement élevé d'écoutes en pleine nuit en provenance de Californie.
Ah ouais.
Et j'ai plus le nom précis en tête, mais c'est vraiment la ville, le district où il y a tous les bureaux, quoi.
Ah ouais. Ah, c'est marrant, ça. Et ils écoutent en français, du coup, enfin...
Ouais, mais après, enfin, c'est peut-être aussi ce qui fait qu'on nous laisse faire, c'est que c'est en français. C'est en français, et puis au final, la francophonie n'est pas si grande que ça. Enfin, ça fait beaucoup de monde, hein, ouais. mais c'est pas l'anglais, quoi, qui est parlé absolument partout. Ça réduit un petit peu le périmètre, ouais, aussi. Je sais pas, j'en ai aucune idée, je suis pas dans leur tête. Donc, soit ils sont sympas,
ouais,
soit le juriste qui s'est penché dessus avait autre chose à faire sur le moment, avait pas trop envie de s'emmerder, et il a dit bon allez, c'est bon.
Ouais. Non mais c'est quand même, c'est quand même c'est une réussite, quoi. Enfin, c'est quelque chose d'important. Moi, le dernier qui a réussi à faire ça, bon, il y avait Acide, c'est quoi, Reflet d'Acide, je crois. Et surtout, avant, tu avais Nullbuck. Enfin, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui et à quel point c'est devenu, entre guillemets, mainstream. C'est-à-dire que c'est quand même assez connu, même en dehors des milieux purement rôlistes. Tout entre les romans, les BD, les trucs comme
Ouais,
ça,
c'est le
c'est.
truc dont on me parle le plus, hein.
Ouais, bah forcément,
C'est
parce que c'est qu'on démarre.
Nullbuck,
C'est.
ouais. Et Reflet d'Acide, hein, pour... Mais Reflet d'Acide, il faut déjà avoir être un peu plus impliqué dans la fiction audio et tout ça, quoi. Mais pour ceux qui écoutent ça, qui je le fais découvrir des potes, etc., ils sont absolument pas là-dedans. C'est Nullbuck, le truc qui revient, que tu téléchargeais
Mais
un
tu peux.
par un sur Emule.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Comment dire, tu t'es inspiré de Nullbuck ou t'es parti complètement sur autre
Pas
chose sans les
du tout.
connaître d'ailleurs?
Honnêtement,
Ouais.
enfin moi, si Nullbuck, j'écoutais au lycée.
Ouais.
C'est vieux maintenant.
Ouais.
Non, je ne me suis pas du tout inspiré de Nullbuck pour deux. Je reconnais déjà que c'était super novateur et puis que c'était vachement bien. Hein. Moi, j'aimais bien. Mais je ne m'en suis pas inspiré parce que ça inspire déjà énormément de gens sur la fiction audio. On commence depuis quelques années à sortir un peu de ça, mais c'est quand même quelque chose qui reste énormément, quoi. Et donc déjà, je voulais pas. Moi, j'aime bien, comme quand je suis arrivé dans le podcast, j'aime bien proposer quelque chose de différent. Comme ça, tu marches sur les pieds de personne, parce que c'est des petits milieux. Alors, ça sert à rien d'arriver tout berzingue, sans même te rendre compte quand t'as pas fait de recherche que t'es en train de cloner un contenu qui existe déjà. Donc déjà, enfin voilà, on est entre passionnés, on n'est pas là pour se tirer dans les pattes. Donc arriver avec quelque chose de différent. Et puis surtout, moi, je viens avant tout du. Moi, je suis de l'école du cinéma. Et du coup, j'aime bien l'idée que d'une fiction audio très dynamique, bourrée d'effets sonores, où il se passe énormément de choses avec énormément de rythme et tout. Et du coup, je suis allé en fait vers mon propre format, quoi.
J'avais une question là-dessus. Tu pourras en parler après d'où tu viens justement, quand tu dis que tu viens du cinéma. Il y a un truc que je trouvais super intéressant dans la narration. C'est comment vous faites avancer la narration juste en décrivant ce qui se passe. Et sachant que vous décrivez pas ce qui se passe, parce qu'il n'y a pas de narrateur, si je me souviens
Ah, il n'y a
bien,
pas de voix off.
il n'y a pas de voix off, du coup l'action avance uniquement avec l'action des protagonistes. Je trouve ça, je ne sais pas si c'était fait exprès comme ça ou quoi, mais je trouve ça vachement fin et très excitant à écouter, parce que quand tu es un créateur d'histoire, comme on est tous un petit peu, tu vois, entre les scénarios qu'on écrit, les trucs qu'on imagine, les podcasts qu'on fait, voilà, il y a des créateurs de contenu, on va appeler ça. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à la BD, je m'intéresse beaucoup du coup au théâtre. Enfin, tu vois, il y a des trucs comme ça à côté. Donc, quand tu sais comment c'est construit une histoire, comment tu racontes une histoire, eh ben, j'étais surpris en écoutant les Chroniques Galactiques de la manière dont c'était fait. Parce que j'ai trouvé que c'était pas fait artificiellement. Tu vois, il n'y a pas de l'exposition faite pour rien. C'est vraiment. Tu sais, des fois, tu as du dropping comme ça, du fact dropping, juste pour dire bah, voilà le monde, comment il est, etc. Non, toi, tu rentres direct dedans. Et puis après, ça avance comme ça. Et en fait, on attrape les petits bouts d'histoire au fur et à mesure. Alors, j'ai pas écouté les autres saisons, mais sur la première saison, j'ai cette impression-là de me dire, putain, c'est fin, c'est bien fait.
Ah ben, j'apprécie parce que c'est complètement fait exprès.
Ah, tu vois?
Et c'est pareil sur les 3 saisons.
Ah, ok,
C'est
d'accord.
complètement fait exprès sur les 3 saisons. Je voulais pas de voix off
Ouais.
parce que même si l'idée c'est absolument pas de critiquer taux de format ou quoi. Il
Pas
hein,
du tout,
y a des
non.
fictions audio avec des voix off qui sont absolument géniales, hein, attention. Et puis moi, c'était ma première fiction audio, tu vois. Donc je me suis dit voilà, tu maîtrises pas encore trop les mécaniques d'écriture et puis derrière le montage, la réalisation, etc. Enfin même si ça je connaissais quand même un peu. Je me dis, pour moi, la voix off, si c'est mal tenu, ça ralentit énormément un récit, quoi. Et moi, ce que je voulais, c'était justement que ça pulse. Je voulais que ce soit Bad Boys 2 sans les images, quoi. Que
Ouais.
ça débande pas du début à la fin, quoi. Même s'il y a des moments un peu plus calmes, mais que chaque épisode, ça aille très vite. Et du coup, je me suis dit, on va faire sans voix off. Enfin, à nouveau, c'est là que mon goût du cinéma revient, c'est que dans le cinéma, pratiquement jamais de voix off, à part quand t'es vraiment sur un point de vue à la première personne, mais sinon t'as quasiment jamais de voix off, particulièrement dans ce genre de récit, il y avait action-aventure, etc. Et je voulais avoir cette pratique-là. Ce qui, au niveau des dialogues et tout, pose beaucoup. Des dialogues et des effets sonores te demandent à soigner ton écriture, à justement faire attention aussi et c'est ce qu'on voit aussi dans certains films, où t'as un personnage qui va se mettre à te dérouler tout un truc, alors que. Un personnage qui de toute façon le sait déjà, quoi, et justement avoir une exposition de diplôme, et ça je voulais pas non plus.
T'as souvent la technique, tu sais, quand les deux personnages ils sont ensemble, il y en a un qui dit, tu peux me rappeler déjà ce qu'on fait là? Et il re-raconte l'histoire, et on sait très bien que c'est pour nous, Parce que l'autre, il le sait déjà.
Ouais.
Ce que tu me dis me fait penser, tu sais, dans les BD, jusqu'à une certaine époque, où chaque case qui racontait l'action, t'avais un voix off qui décrivait la case en même temps. Et ils ont arrêté, il y a eu un, je sais pas quand, une espèce de bascule qui a arrêté ça.
Alors, c'est pas une bascule.
Ouais.
Parce que, à un moment, si tu te souviens, ça c'est ouais, c'est très années 70, quoi. Mais si tu te souviens bien, dans les années 80, début des années 90, les personnages pensaient énormément. Et au lieu de décrire comme ça, eh ben, le personnage décrivait en pensant, en fait. Et t'avais, moi je pense beaucoup au Spider-Man que je lisais quand j'étais gamin, ou dans la tête de Spider-Man, ça carburait, quoi. T'avais toujours des bulles qui est en train de décrire soit ce qu'il faisait, enfin, en plus des choses qui, voilà, avec le dessin, le dessin était souvent suffisant.
Donc c'est
Ouais, pour
amusant.
du médiéval, c'est pas inintéressant.
C'est pas inintéressant, mais quand tu commences à prendre conscience que ça devient un code, et que tu rentres dans ce code-là pour écrire tel type de truc, bah ça te donne un type d'ambiance, quoi, une manière de faire.
Ouais, et puis tu peux en jouer si tu le fais en conscience. Et ouais, donc non, moi je voulais pas de voix off. Il y a quand même le titre déroulant au début, qui est en voix off, forcément. Mais sinon, après, ouais, non, plus du tout de voix off, uniquement des effets sonores, des dialogues et puis de la musique aussi. Il y en a pas mal.
Ouais, moi c'est pas tant les effets sonores ou les dialogues que je trouve très bien et enfin d'ailleurs c'est les vrais, enfin les piou-piou, les machins, enfin, je sais pas, mais en
Il y a
tout
un
cas
peu de tout. Il y a des vrais, et puis il y en a
que
que j'ai fait
t'as créé,
moi-même,
ouais.
et ouais.
Mais moi je te dis, j'étais vraiment bluffé parce qu'au début j'écoutais ça d'une oreille parce que ça m'intéressait, j'étais en train de faire autre chose et à un moment j'ai arrêté quoi. J'étais vraiment en train d'écouter. Je me disais, tiens, mais il y a un truc là, comment il fait ce truc là, tu vois, enfin, je trouvais ça super intelligent. Bon, bref, je voulais te le dire.
Cool.
Donc c'était bien. Tu dis que tu viens du cinéma?
Bon, enfin, je viens de ma pop culture vient du
Ah,
cinéma.
ok, d'accord.
Enfin, si j'ai bossé un an pour un collectif de réalisateurs. Moi, je faisais de la com pour eux, donc en fait, je faisais tout parce que c'était il y a une quinzaine d'années. Déjà, dans la vidéo, il n'y a pas beaucoup de fric. Alors, dans la vidéo pour la musique, parce que c'était beaucoup du
Ah ouais.
clip et de la captation de live. Là, il y en a pas, il y en a vraiment très peu, quoi.
Ça, tu faisais de la com pour des réalisateurs qui faisaient des captations de
Voilà, c'est
concerts, par
ça. Mais
exemple?
du coup, je faisais aussi de la cam,
D'accord. Ah,
je
tu
faisais
filmais
plein de
aussi?
choses. Ouais, bah du coup, j'ai appris. Bon, j'ai pas appris. J'ai pas appris à filmer, mais enfin, j'ai appris à cadrer, à tenir un plan, etc., etc., quoi. Et j'ai appris aussi beaucoup en observant. Mon bureau était à côté de celui du monteur,
Ouais.
et là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris. Alors, en le regardant faire, en discutant avec lui, j'ai appris la science du montage, et
Ouais.
je m'en sers maintenant dans mes fictions audio, quoi. C'est le montage, et ça rejoint un peu ce que Georges Lucas, il est monteur à la base.
Ouais.
C'est sa grande passion, enfin, il est réalisateur, mais sa passion, ça a toujours été le montage. Et c'est vrai que le montage, c'est vraiment déterminant. C'est pas l'étape la plus importante, elles sont toutes importantes. Mais le montage, ça te donne le sens d'une action, ça te donne sa lisibilité, et puis ça te donne un rythme. Et ça m'a beaucoup servi.
Et c'est pas tes études alors?
Non, pas du tout.
De...
Moi, mes études, elles ont rien à voir. Moi, j'ai fait un BTS communication des entreprises, et après, j'ai fait un master 2 en commerce international, en école de commerce,
Ouais.
en spécialisation développement d'entreprise. Donc, j'étais très business,
Ouais.
très com, en fait. Moi, j'ai toujours aimé la com, ça a toujours été mon truc. Et puis, dans ma vie professionnelle, ensuite, c'est ce que j'ai pratiqué, c'est ce que je pratique encore aujourd'hui. Là, je croise les deux maintenant dans ma vie professionnelle.
Ah ouais.
Le développement d'entreprise et la com, en fait. C'est vraiment les deux trucs que je fais au quotidien. Donc non, strictement rien à voir. C'est vraiment de la passion. Quelque chose qui commence à prendre de la place et à devenir beaucoup plus sérieux que ça n'était avant. Mais ça naît vraiment de mon goût pour ça.
D'accord. Alors tu me disais que tu avais lâché le jeu de rôle,
Oui.
mais tu avais lâché le jeu de rôle il y a un moment, tu m'as même dit il y a un moment. Est-ce que ta culture Star Wars ou est-ce que ta culture des imaginaires ou les cultures de l'imaginaire, tu sais, il y a pas mal de discussions en ce moment autour de ça, te viennent du jeu de rôle ou est-ce que c'est l'inverse, c'est le jeu de rôle qui est une partie de ta culture?
Moi, ma culture, bon, moi j'ai une passion pour la science-fiction, mais la science-fiction sous toutes ses formes, quoi. Parce que là, c'est un peu la mode en ce moment des science-fiction, de la hard SF, des science-fiction qui se veulent adultes, sérieuses, etc. Comme Star Trek, comme Asimov, etc.
Enfin, entre Star Trek et Asimov, du coup,
Ah, bah il y a l'univers, bah, bien sûr.
il y
Et
a
à
une différence,
l'intérieur de
oui.
la hard
Ouais.
SF, il y a un million de trucs aussi, mais tu vois, voilà, The Expanse, etc.
Ouais.
Et c'est la
The
mode en
Expanse,
ce
on est
moment.
vraiment dans le hard, dans
Ah
l'hard
bah dans
SF.
Star Trek aussi, hein.
Bah, Star Trek, c'est un peu plus opéra. Enfin, moi,
Bah c'est un
je.
peu plus vieux,
Ouais, c'est un peu plus vieux, mais moi, je le
mais...
vois plus fantasy, quoi. Mais t'as. Ouais,
Ah,
c'est
fais
peut-être.
gaffe, attention à ce que tu dis.
Mais comme j'y connais rien.
Mais je t'invite, et j'invite ceux qui écoutent, à regarder la série originale de Star Trek.
Ouais.
J'ai des potes trekkies
Ceux des années 60?
J'ai des potes trekkies qui m'ont cassé les reins. Absolument regarder, et puis on est toujours au final de Star Wars versus Star Trek, il est toujours un peu là. Hein. Et puis j'ai fini par m'y mettre et j'ai adoré ça, quoi. C'est vraiment super.
Ah oui, donc toi, t'es pas dans un camp. Tu t'aimes bien le
Non,
coup.
bah moi j'ai toujours adoré Star Wars et tout, mais j'ai pas de, je suis absolument pas exclusif, quoi. Moi j'adore, au contraire, moi, toutes les SF, toutes les propositions m'intéressent. Après, il y en a que je garde et il y en a que je garde pas du tout, mais tout m'intéresse. Et donc moi j'ai toujours eu ce plaisir-là, mais ce plaisir de la culture populaire. Moi j'ai toujours adoré lire des comics, j'ai toujours adoré regarder des films, regarder des séries, notamment dans les années 90, où il y a eu plein de propositions géniales qui ont été faites. Et après, étant étudiant, tu as toujours des accointances avec d'autres geeks que toi, parce qu'au final, t'en es un. Plus moi j'étais geek avec des t-shirts Megalès, tu vois, donc ça te cloisonne encore plus. T'es cloisonné dans ton,
Bah,
c'est la double peine.
tu cumules geek et métalleux.
Et au final, on a commencé à faire des jeux de rôle comme ça avec une.
Moi, ma fille me dit moi. Moi aussi, pareil un peu.
Ah, j'ai un projet sur lequel je bosse qui va t'intéresser, on en parlera après.
Ouais.
Et donc voilà, ouais, un pote qui est arrivé avec un bouquin de Donjons et Dragons au lycée, et puis là, ça y est, comme tout le monde, quoi. Et
Ouais.
puis après, c'est parti, et ça a été beaucoup de choses. Un jeu de rôle dont j'entends plus beaucoup parler, mais que je trouvais formidable à l'époque, c'était Deadland.
Ouais, mais non, t'es génial.
C'était vraiment bien
T'as une
écrit.
ressortie bientôt?
Ah oui?
Ouais.
Ah, ça c'est cool, tu vois.
Ouais, c'est le Wild West, des cow-boys, ou toi, des. Voilà, dans un. Comment on appelle ça? Un Far West fantasmé, plein de surnaturel,
Ouais,
avec des
mystique,
créatures mystiques, avec de
ouais,
la
moi
magie,
j'avais
etc.
adoré. Moi je faisais
C'est
un
génial.
prêtre complètement schizo, un prêtre pistolero complètement schizophrène et tout. On avait tous des personnages complètement déjantés et ça j'avais
Moi
adoré
j'avais un savant
Deadland.
fou, j'adorais mon savant fou, je fabriquais des trucs et tout, c'était
Moi j'avais un pote qui faisait un vieux mineur
marrant.
1m50 avec une grosse barbe et
Ouais.
sa pioche qui était absolument insupportable et ouais, des personnages qui sont faits pour se rentrer dedans au bout de 5 minutes de jeu quoi, comme souvent. Et ouais, moi j'adorais Deadland, j'adorais Shadowrun aussi, on s'était
Ouais,
bien
Shadow, c'est bon.
éclaté. Et Vampire la Mascarade, bah mon pseudo Willem Horn vient de là en fait, d'un
Ah,
personnage que j'avais créé dans cette partie-là il y a des années.
ok.
Et c'est resté, et puis Star Wars évidemment, moi je masterisais Star Wars surtout.
Dans les versions bêtises?
Ouais, que j'ai encore.
Oh,
Et
bah, elles
j'ai
sont
pas mal
super bien.
d'extensions.
Mais elles sont
Et
super bien. Et elles sont jouables encore. Hein.
ouais, mais bah, carrément. Et
Ouais.
puis c'est que tous ceux qui savent ou qui entendent, qui les voient, me disent ouais, combien tu les vends, etc. Quoi. C'est
Ah oui,
cher, cher.
il y a une certaine valeur. Hein.
Non, non, ça. Regarde, je m'en suis servi d'ailleurs, notamment des extensions. Extensions sur les vaisseaux, extensions sur l'Empire. Tout ça, je m'en suis pas mal servi pour mes récits des Chroniques Galactiques. Quand j'ai besoin d'un vaisseau et que je veux un truc bon, alors il faut que ce soit balèze, mais pas trop, mais quand même. Et puis il faut laisser une petite particularité un peu chiante pour les personnages. Puis guide de l'Empire, guide des vaisseaux, tac, tac, tac.
T'as
Voilà. Ah,
des.
galion stellaire. Ah, ça c'est pas mal.
Bah, t'as du matériel de dingue. Moi, tu sais, les éditions Altmedia ou Altedia, je sais plus, tu sais, les trucs qui te vendent chaque semaine, un bout de vaisseau, un bout de truc, tu sais.
Ouais.
Et ben, à une époque,
Altaïa.
Altaïa, ouais. À une époque, ils ont sorti un truc Star Wars. Bon, c'était pas du matériel, tu vois, mais c'était vraiment des fiches,
Ouais, les fascicules.
des
Ouais, j'en ai
fascicules.
quelques-uns.
Ouais, ben moi, j'en avais un tas comme ça, et j'ai tout jeté, genre,
Ah,
un mois,
c'est
en me disant, ça
dommage.
intéressera personne.
C'est vrai, mais t'as
Voilà.
pas fait une petite recherche, hein?
Ben, franchement, je galérais, j'essayais de trouver des gens qui que ça pouvait intéresser, j'avais pas pensé à toi, sincèrement.
Ah, bah
Et
c'est
c'est
preuve,
dommage parce que, putain,
ça
je te
m'aurait
jure, mais tu te rappelles
intéressé.
le paquet que j'avais? C'était dingue, quoi. Bon, bref, je suis désolé d'en mettre
Non,
ça.
non, mais ça, c'était ouais,
Mais en
c'était
fait, je me
cool.
dis, sur Star Wars, j'avais pas mal de bouquins. Moi, à l'époque où je maîtrisais beaucoup Star Wars aussi, je jouais et je maîtrisais. J'étais super content d'avoir autant de matériel parce que finalement, mettre des caractéristiques à un vaisseau, à un personnage, un truc comme ça, c'est super simple. Mais avoir des illustrations de telle qualité, la carte, une carte galactique, des ci, des ça, c'était vraiment bien. Moi, je te parle de ça, c'était avant la première, enfin avant la deuxième trilogie, quoi, avant la prélogie.
Ouais,
Donc
ouais,
c'était, tu vois, il y avait que 4, 5, 6,
années 90,
voilà,
quoi.
années 90. Et déjà, rien que ça, il y avait déjà beaucoup de choses, toi.
C'est clair.
Donc c'était super intéressant. Donc tu disais, vas-y, je t'ai coupé sur ton expérience rôlistique.
Bah, elle m'a servi, bah, déjà, les sources, les ressources m'ont beaucoup servi. Et puis après aussi, dans la construction du récit, et puis étonnamment, dans la construction du comportement des personnages, ça m'a pas mal servi.
Ah ouais?
Parce que dans les Chroniques Galactiques, pour pitcher rapidement, c'est deux contrebandiers qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont obligés de bosser ensemble parce que dans le milieu des bas-fonds de la galaxie, ça se passe pendant la trilogie originale en plus, donc avec un empire au top de sa forme. Et bah, ils se retrouvent dans des, comme ils sont contrebandiers, ils sont dans le monde, voilà, dans les bas-fonds, dans la lie un peu des malandrins galactiques avec des gens super dangereux. Et bah, ils n'ont pas d'autre choix que de bosser ensemble s'ils veulent s'en sortir. Avec des éléments déclencheurs bon, qui vont évoluer. Hein. Ça, on est sur trois récits qui constituent une trilogie, ça s'empile, il y a plein de trucs, mais la sève, c'est ça, de ces deux personnages-là. Et ces deux personnages, du coup, qui se retrouvent aussi, parce que Star Wars, c'est un univers super exotique, où il peut se passer absolument tout et n'importe quoi. À partir du moment, et là, c'est vrai, le fait de maîtriser des parties t'aide à comprendre comment fonctionne l'univers de Star Wars, et quand t'as compris ça, tu peux faire absolument ce que tu veux. T'as 3-4 règles à respecter, et claque instantanément, non seulement t'es dans l'univers de Star Wars, mais en plus c'est complètement crédible, et à aucun moment on va s'imaginer que cette planète tu l'as inventée, ou cette station tu l'as créée. Parfois même, moi je crée des univers, et comme ils ont jamais été dans cette période-là trop développés, je leur donne un nom qui existe déjà dans l'univers, dans la carte de la galaxie, etc. Et quand t'as compris ça, après, bah déjà ça te permet de dérouler, d'être super à l'aise dans cet univers. Et à nouveau, moi mes personnages, qui sont donc deux personnages, qui se retrouvent dans des situations avec des gens super dangereux, des situations où ils ne maîtrisent absolument plus rien, etc. Et finalement, leur réaction par rapport à ces situations, bah, ça vient de mon expérience de maître des jeux en observant le comportement de mes joueurs quand je les poussais dans des situations comme celle-là. Et ces deux personnages qui sont des filous, quoi, qui ont des techniques de filous pour se sortir d'une situation un peu que... comme tes joueurs, parfois, quand t'as écrit un truc, ils vont trouver une solution que t'as absolument pas, que t'as absolument pas pu venir, parce que c'est un petit truc de malin, quoi. Mm. Et c'est exactement comme ça qu'ils réagissent. Et,
qu'est-ce que j'ai pu rigoler quand ils sont cachés dans le... C'est quand ils... Ouais. C'est au début, là, quand ils sont cachés dans le vaisseau impérial, et qu'ils passent... Et comme il y a des mecs tout le temps qui passent, ils sont obligés de picoler.
Ouais, ils restent 4 heures là-dedans.
Ils restent 4 heures à picoler dans une cachette, et ça fait... Mais, franchement, je me suis dit, mais ça, c'est trop visuel, quoi.
Ouais,
c'est super visuel, et moi j'imaginais très bien les mecs bourrés qui attendent de pouvoir sortir et qui arrivent pas, quoi.
Et puis qui en même temps se tirent les verres du nez pour savoir combien pas... gagne l'autre avec ses trucs, parce qu'ils sont
ils comprennent pas
comment l'autre il arrive à être contrebandier, ils sont câblés très différemment. Mais ça aussi, c'est un truc, c'est que dans les situations, j'essaye de faire des situations très visuelles pour que l'imagination cabale.
Bah, ça marche, ouais.
Ça aussi, c'est important. Enfin,
et tu le fais sans voix off, encore une fois. Enfin, je vais arrêter de te faire des compliments, mais j'ai juste été... Sincèrement, j'étais surpris, en fait, c'est pour ça.
Et... On essaye de... Après, je ne suis pas le seul à proposer de la fiction audio sans voix off. Hein. Après, bon, moi, à la base, je n'aime pas trop de la fiction audio. C'est en proposant mes trucs que tout un tas de connexions se sont faites et que j'ai découvert le travail de tout un tas de gens assez incroyables. Comme François TJP, etc. Je ne suis pas le seul à ne pas proposer de voix off, mais moi, c'était le parti pris que je voulais prendre.
Oui, non, mais moi, je te dis, encore une fois, je ne suis pas du tout... je suis pas très fort, je connais pas beaucoup là-dedans, du coup j'étais à part Noël Buck que je connaissais un peu et qui m'a jamais trop parlé. Je pense que je suis arrivé trop tard, je suis un peu plus vieux, du coup je pense que je suis arrivé un peu trop tard de la hype. Par contre, je connais John, je connais sa femme, c'est des gens géniaux, super, et je suis ultra heureux que quelqu'un de notre milieu, entre guillemets, puisse vivre de ça. Comment dire, et continuer à proposer des choses comme ça et à le faire arriver dans le mainstream, alors que c'est quelque chose d'ultra confidentiel, qu'il y a des releases, machin. Il met sa pierre à l'édifice de la réussite du jeu de rôle, et d'ailleurs on le voit avec tous les jeux qui sortent en ce moment dans le grand public. J'en parlais dans les précédents, tu vois, genre chez Cora à côté de chez moi, ils vendent des jeux de rôle, quoi.
Donc, ouais, c'est assez incroyable, c'est assez incroyable.
Et je trouve ça dingue, et je pense que ça fait ce que tu fais toi ou ce que fait John, je trouve que ça nous aide, en fait. Ouais. Moi, je suis très jeu de rôle, tu vois.
Mais moi, justement, parce que bon, voilà, on jouait pas mal, on faisait des parties de 3 jours avec tout le monde. Et,
on avait le temps à l'époque.
Ah, c'est ça, on avait le temps. Beaucoup trop.
On avait le temps et pas d'argent, et puis maintenant, c'est...
Voilà, c'est ça. Et du coup, après, voilà, les études ont continué, on s'est tous un peu dispersés aux quatre vents, et puis finalement, j'ai jamais repris le jeu de rôle depuis là. Mais du coup, quand j'ai commencé à m'y réintéresser à travers le podcast, quand les podcasts de jeux de rôle sont arrivés, et puis qu'ensuite j'ai découvert Fibre Tigre, etc. Ouais. Moi, j'ai découvert chez Fibre Tigre, tous mes potes, c'était, tu connais pas. Genre, vraiment, j'étais complètement sorti du game.
Je connaissais pas, hein, avant de me faire inviter à
Elder Fest.
Ah ouais, c'est le hasard total.
Ok.
Moi, je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui m'a contacté sur Mastodon. Donc, Mastodon, c'est un Twitter like, voilà, pour les geekos, notamment. Je vais me faire étriper. Et c'est quelqu'un qui m'a dit, tiens, il y a l'Elderfest, est-ce que ça te dirait d'aller faire un reportage là-bas, un truc comme ça? Je dis, bah ok, je connais pas, je sais même pas qui c'est. Et je suis allé, j'ai découvert à cette occasion-là tout ça, quoi. Et c'est ce qui
Ouais,
m'a
Game
donné envie
of
de
Thrones,
revenir, quoi.
etc., etc.
Hein?
Ouais, Game of Thrones,
Ouais, mais je
etc.,
connaissais
etc.
pas. Mais en fait, je voyais des trucs passer, tu vois. Moi, je suis très fan de Clément Viktorovitch,
Ouais.
qui fait des analyses politiques, rôliste, évidemment. Et le mec, en ce moment, il joue avec eux, quoi. Il y a Captain Popcorn en ce moment qui joue avec Brandt, avec Jérôme Larrey, qui joue avec des gens comme ça, tu vois. Donc c'est marrant parce que c'est des gens qu'on connaît, mais donc ça devient de plus en plus. Voilà, ça s'étend de plus en plus, quoi. Je trouve ça fou, quoi,
Ouais, mais
l'ampleur que ça
moi,
prend.
justement, redécouvert l'univers du jeu de rôle tel qu'il est là depuis 2-3 ans,
Ouais.
j'ai halluciné qu'il y ait une émulation autour du jeu de rôle comme ça, parce que moi, à mon époque, c'était absolument pas comme ça,
Bah,
quoi.
je sais pas si tu, moi on, je sais pas si de la même génération que moi, mais moi c'était génération Mireille Dumas. C'était compliqué, quoi. Mireille
Ah
Dumas,
ouais.
c'est celle qui nous avait défoncé,
Ouais.
qui avait fait des émissions là pour défoncer les rôlistes en disant que c'était des satanistes et tout ça. Ah
Ouais,
ouais,
bah
non, ça a fait
après
du mal
moi,
au jeu
si
de
tu
rôle.
veux, moi je te dis, j'étais tellement dans le métal à l'époque que ça me... Ouais, vous voyez
Ouais, t'as
que je
pêché
fasse du jeu
sur
de
ton côté,
rôle,
quoi.
avec les cheveux longs jusqu'au milieu du dos, de toute façon, ça c'était déjà des trucs auxquels je portais absolument plus attention, quoi.
Alors, du coup, même si ton expérience rôlistique, elle a duré quelques années, puis que là, ça fait longtemps que tu n'en as pas refait, elle t'a quand même forgé finalement pour faire cette fiction-là. Et est-ce que tu as envie de reprendre du coup le jeu de rôle? Est-ce que tu as l'impression que ça va t'apporter quelque chose en plus? Ou finalement, tu as réussi à tirer ce dont tu avais besoin?
Bah, elle m'influencera dans tout ce que. Dans tous mes récits de fiction, forcément. En plus, c'est la façon dont je le fais pour les Chroniques Galactiques. C'est les Chroniques Galactiques, c'est une résurgence d'un podcast Star Wars qui s'appelle Hyperdrive, et qui est la fusion d'un podcast et d'une fiction audio, en fait. C'est un podcast qui va dérouler un sujet, et dans un contexte fictionnel, avec des petites scénettes, des interactions, etc., etc. Ça vient de là, en fait. Et de là, à force de faire ça, avec justement un des deux personnages des Chroniques Galactiques, je me dis, j'avais tenté un ou deux hors-série avec que de la fiction, puis je voyais que ça prenait pas, je dis, t'es un peu en train de paumer tout le monde, enfin, c'est pas compris, quoi, tes hors-série, ils sont pas compris. Je me suis dit, bon, fais une fiction audio à côté. Ça vient de là. Et du coup, dès que j'écris, finalement, je prends beaucoup de plaisir à écrire comme ça. Et je retrouve le plaisir que j'avais quand j'écrivais des scénarios de partie. Et le plaisir que j'avais à voir mes joueurs se friter, faire empirer une situation en essayant de la résoudre, faire des trucs sans imaginer les conséquences, etc. Et je retrouve un peu ce plaisir-là d'écriture, en fait, quand...
C'est marrant parce que je me suis mis à écrire et à vraiment développer mes compétences dans ce domaine-là lorsque j'ai été un peu comme toi sans jeu de rôle. C'est-à-dire que quand les gens se sont séparés et que j'ai pas retrouvé de nouvelle équipe, que j'ai pas pu jouer en fait, je compensais mon manque de jeu de rôle en écrivant. Et du coup, pareil, ça m'a forgé et ça m'a permis de faire la même chose que toi en fait. De réimaginer des situations, d'aller dans ces directions-là, de réinjecter l'humour qu'on pouvait avoir pendant les parties là-dedans, c'est très formateur du coup.
Et puis une certaine gymnastique intellectuelle aussi, hein. De rebondir de proposer une situation qui prend une tournure que tu n'imaginais pas, tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis, tu rebondis,
Donc
etc.
ça veut dire que quand tu écris tes fictions, tu te mets à imaginer des choses que tu n'aurais pas pu imaginer parce que tes joueurs ils ont déjà fait des conneries comme ça, du coup ça part dans une direction que tu n'aurais pas pu imaginer sans ça, quoi.
Voilà, en fait, j'imagine quelles seraient les réactions des personnages. Et à partir de là, je me dis comment ils réagiraient. Et puis là, tac, je vois une situation, et puis là, ça pourrait partir comme ça. Et puis là, autant la nouvelle situation est intéressante à développer pour moi, par contre, la réaction du personnage, enfin, étant donné le personnage, jamais il ferait ça. Il va faire autre chose. Et ça va être 3 fois pire. Et du coup, je fais ça. Et puis du coup, ça m'oblige à rebondir derrière. Ce qui fait qu'au final... Pas tant sur la saison 1 que particulièrement sur les saisons 2 et 3, les récits, ils m'appartiennent pas vraiment, quoi. Parce que c'est les personnages qui font ce récit. Comme dans une partie, quoi.
Bah ouais, mais là c'est toi qui gères tous les personnages. Moi j'avais fait de la novélisation de partie à un moment. C'est-à-dire que j'avais écrit un début de roman, mais c'était plus pour l'exercice qu'autre chose. qui partait de mes aventures et qui était donc vu par le point de vue de mon personnage, si tu veux. Et je réinterprétais tout ce qu'on vivait en tant que jeu de rôle, c'est-à-dire les trucs, les jets de dés, les trucs comme ça, d'une manière, j'allais dire roleplay, puis ensuite de manière littéraire, en développant des parties, des morceaux qu'on n'avait pas forcément développés là, mais en trouvant des justifications, par exemple, à des réactions de joueurs, tu vois, en imaginant des choses autour de ça. Par contre, c'était joué, c'est-à-dire que les parties étaient jouées avant que je les novélise, tu vois, j'inventais pas tout, quoi. Je rajoutais des bouts autour. Alexandre Astier, tu sais qu'il y a plusieurs épisodes de Kaamelott qui viennent du jeu de rôle, et il a fait des entretiens où il expliquait qu'il était joueur de Warhammer, ça se sent tout de suite, et qu'il s'est beaucoup inspiré du jeu de rôle, c'est quelque chose qu'il a aussi forgé pour faire ses propres fictions. Lui, il fait comme toi, du coup, tu vois, c'est-à-dire qu'il imagine les réactions des personnages, il imagine les choses comme ça. Alors que moi, je pars vraiment de jeu, et il y a des fois où je bloque sur un sujet, je suis en train d'écrire un texte, et il y a des fois où je bloque, je me dis putain, faut qu'on joue une partie. Parce que ça va me débloquer, ça va me, tu vois, me donner des... Même si je pars pas de la réaction directe du joueur, je vais rebondir dessus, en fait.
Ouais, et c'est pas un exercice évident, ça. Hein.
Non, et je me trouve meilleur en impro, puis en écriture après, parce qu'en impro, pendant la partie de jeu de rôle, dans ma tête, ça fuse, il y a toujours plein de trucs qui arrivent. Après, je me sens tout sec, tu vois. Mais si j'ai fait la partie d'impro avant, c'est comme si ça me donnait du jus pour pouvoir écrire après. Alors que si j'écris sans avoir joué avant, je galère, en fait.
Après, c'est la créativité, c'est de la magie, quoi. On sait pas comment on la débloque, on sait pas comment elle vient.
Si on est branché sur la noosphère, tu connais la noosphère?
Non,
la noosphère, c'est la sphère des idées, c'est l'ensemble. C'est je sais plus quel c'est pas Platon, je sais plus quel philosophe avait développé ça. C'est une espèce de plan dans lequel toutes les idées de l'humanité circulent et certaines personnes mettre des idées, enfin tout le monde, et puis il y en a certains qui peuvent taper dedans, tu vois, qui ont des tuyaux directement de l'anosphère dans leur cerveau, plus ou moins large, donc les artistes, les musiciens, les fous, tous ces gens-là qui ont une vision décalée, c'est simplement qu'ils mélangent des idées provenant de l'ensemble des autres idées de la planète qui ont circulé ensemble. Voilà, ça s'appelle l'anosphère.
Ouais, mais les mécaniques d'écriture, chacun a sa technique, hein. Stephen King, il promenait son clébard. Chacun sa technique.
Il fait quoi, Stéphanie ?
Il promène son chien.
Il promène son chien ?
Ouais. Quand il promène son chien, et en promenant son chien, il déroule les situations, il débloque des situations, il emmène des personnages, etc., etc. Stéphanie, il promène son chien. Yeah. Chacun sa technique.
Tu m'avais dit que tu avais un autre projet, du coup ?
Un projet à venir.
Ouais.
Qui va être lancé, qui va être teasé, là, ce soir, au moment où on enregistre.
Ah, oh, bien ça.
C'est un projet de... Tu connais le Geek, Geek Mag
ou pas? De nom.
Magazine pop culture. Ouais. Et on travaille, en fait, je travaille avec Geek plus Geek Mag, moi et puis une équipe dont les quatre personnes font des personnages dans les chroniques galactiques. Ouais. Et puis d'autres encore, sur un hors-série spécial métal et pop culture. Métal, ouais. Et... Non, métal et culture geek. C'est ça, la thématique. Donc comment la musique métal s'est inspirée de la littérature, du cinéma, des jeux de rôle, des jeux vidéo, etc.
Comment il s'appelle le groupe qu'on aime bien là? Il y a, tu sais, les mecs qui font du power metal avec un grand marteau là. Tu sais, le mec il parle d'elfes dans l'espace et de gobelins et dans un vaisseau spatial avec un marteau géant.
Alors c'est lesquels?
C'est un groupe de métal où le mec il a un marteau et il fait du power metal. Ouais. Et il est inspiré à fond du jeu de rôle et des cultures comme ça.
Ah, t'en as pas mal, hein. T'as Bolt Thrower qui est très branché Warhammer 40 000.
Ouais. C'est du Warhammer 40 000 ce qu'on est qui fait. Ouais. Ouais.
Et donc, comment le métal s'est inspiré et puise de tout ça pour construire son imaginaire. Et avant, plus tard, assez rapidement, d'inspirer à son tour la culture populaire à travers les jeux vidéo, les bouquins, les romans, les jeux de rôle, etc., etc.
Alors, tu veux sur quoi exactement? Sur journal?
Ouais, dans le mag, on écrit dans le mag.
Ah, vous écrivez dans le journal, d'accord. Ouais. Donc, ça va être un hors-série, c'est...
Ouais, c'est un hors-série de 120 pages.
Ah ouais?
Ah ouais.
Donc, 120 pages, c'est plus un MOOC.
Non, non, c'est pas un MOOC, 120 pages, c'est pas un MOOC, mais c'est un beau hors-série, quoi.
Et d'accord, et vous écrivez tous les 5, du coup, dedans,
ouais.
C'est ça?
Ouais, chacun, ça répartit un peu le boulot, en fonction de nos affinités, en fonction de nos spécialités, etc., etc. Là, moi, je viens de travailler, je viens de faire un portrait, je laisse un portrait de Fear Factory, si tu connais.
Non.
Groupe de cyber-metal des années 90, qui a créé sans doute le plus important des albums de métal industriel de l'histoire du métal, début des années 90, qui a fait partie de ces 3-4 groupes avec Sepultura, avec Machinette, qui ont propulsé le métal dans les années 2000, en fait, qu'on fait faire un grand virage au métal pour créer le métal moderne, et qui est très, c'est du, très, enfin 100% science-fiction. Terminator, c'est une obsession pour ce groupe, quoi.
Ah ouais.
Et en plus, avec un son nouveau qu'on n'avait jamais entendu jusque-là, et tout. Enfin, un groupe super important qui puise dans la science-fiction dystopique la plus sombre, quoi. Et voilà, on fait ce genre de portrait, des interviews aussi, d'illustrateurs, de groupes, d'artistes, etc., que ce soit français ou étrangers. Il va y avoir une partie consacrée aux jeux de rôle, une partie consacrée aux jeux vidéo. On parlera de Todd McFarlane, dessinateur de Spawn, qui a dessiné des artworks d'albums pour Korn, pour Disturbed, etc. Ce genre de choses, quoi. Ça va être assez complet. On pourra pas faire tout le tour, parce que rien que, enfin, tu vois, on pourra pas citer tout le monde, tous les artistes, tous les groupes, tous les musiciens. On pourra pas citer tout le monde. On essaye de proposer quelque chose de pertinent.
Voilà. Faudra faire un autre numéro, alors, peut-être, je sais pas.
Peut-être, bah, si celui-là marche bien, pourquoi pas. Après, il faut que ce soit, voilà, il faut qu'on est sur un public, on est entre deux publics aussi. D'un côté, les amateurs de culture geek, de l'autre, les amateurs de métal. Il y en a qui sont très largement les deux. Mais voilà, il faut aussi pouvoir toucher à tout le monde. Donc, en termes de ton, il faut trouver juste milieu pour pas parler chinois pour celui qui connaît absolument rien en métal.
Ça, il faudrait vulgariser, mais
voilà, il faut vulgariser, il faut être accessible, mais il faut quand même que le métalleux chevronné il trouve son compte et qu'on se contente pas d'enfoncer des portes ouvertes.
Ça m'intéresse vachement. C'est marrant que tu parles de geek, mais aujourd'hui je trouve que ça, autant à notre époque je vois à peu près ce que c'était, autant aujourd'hui ça regroupe quand même beaucoup beaucoup de gens différents.
Ah bah c'est très valise maintenant comme terme.
Ouais, c'est très valise. Moi je suis allé dans c'est pas un salon, une espèce de vente si tu veux, spécialisée geek quoi, et dans je sais plus quel patelin, il y a 2-3 semaines, et je connaissais rien du tout. C'est-à-dire que vraiment j'ai débarqué dans un truc, et j'étais avec une copine, et je connaissais rien du tout. C'était des figurines d'univers que je connaissais pas. Du merchandising de personnages que voilà qui venaient de séries que je connaissais pas, et je me suis trouvé super bizarre, quoi. Et par contre les gens qui étaient là ils connaissaient, ils échangeaient, tu vois, il y avait des cartes, il y avait des
passé à côté de ça,
il y avait un peu de rétro gaming. Bon, ça c'est mon truc, parce que pas forcément parce que, enfin, j'étais très intéressé, mais surtout c'est mon époque, du coup tu vois, il y avait des NES, ouais. Comme ça. Mais sinon sur l'ensemble, tu vois, je me suis dit mais alors attends, je suis geek ou je suis plus geek, alors c'est quoi l'idée?
Tous ces univers un peu bis qui étaient complètement dénigrés dans les années 80 et 90, hein, même jusqu'à plus tard. Aujourd'hui, c'est même plus qu'à la mode, c'est devenu mainstream.
Mais c'est mainstream.
Quand on est à 25 films Marvel au cinéma, il faut comprendre que la culture populaire, la pop culture telle que... Même ce mot-là, finalement, n'a même plus de sens. Mais, alors qu'elle avait un sens avant, mais toute cette culture populaire-là, c'est terminé, en fait. C'est déjà fini. Ça va à terme, je pense. Et c'est vrai aussi pour le métal, hein. Quand tu vois que le Hellfest, c'est 180 000 billets. Hein. Enfin, 60 000 personnes pendant 3 jours, avec des passes à la journée ou en 3 jours. Quand tu vois que c'est sold out en moins d'une heure, ça veut dire que, ça y est, le métal, c'est terminé, en fait. Ça veut dire qu'on est au sommet de sa popularité. Que donc, derrière, ça ne peut que finir par décliner. Devenir ringard, puis à nouveau devenir...
Vintage, du coup, après
Vintage, non, parce que ça bouillonne et ça évolue constamment. Continue, ouais. Ça évolue constamment, on a tout le temps des sons nouveaux qui arrivent et tout, mais ça va redevenir quelque chose d'underground, en fait. La scène va redevenir underground, va à nouveau évoluer en underground, avant de, dans 10 ans, d'un seul coup, à nouveau se révéler aux yeux du grand public, quoi.
Ouais, moi j'étais geek ou nerd à l'époque où on n'était pas très populaire. Les filles se moquaient de toi et les mecs populaires du lycée te jetaient des cailloux.
Tout le monde se moquait de toi.
Tu vois, non, mais c'est vrai. Et en plus de ça, à la télé, on disait que t'étais dangereux. Du coup, c'était compliqué. Et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se dire geek parce qu'ils ont vu des films Marvel, qu'ils ont vu Le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça.
Voilà, c'est ça. Mais...
Moi, une fois, il y en a un, il m'a dit je suis geek, j'ai un iPhone. J'étais là, waouh, ok.
Un putain de temps où avoir un iPhone, c'était geek.
Bah,
hein.
C'est ça, on avait l'impression d'être à la pointe de la technologie. Ouais.
C'était le technophile qui avait un iPhone. Ouais. Bon, après, ça veut pas dire que c'était mieux avant, hein.
Non.
Parce qu'on a quand même. Enfin, tu vis aujourd'hui. Enfin, tu vis un rêve devenu réalité depuis plusieurs années maintenant, quoi. C'est les trucs dont tu as rêvé, mais plus fort que n'importe qui, quand tu étais justement dans les années 90 et tout.
Bah,
Après, il faut aussi se méfier de ses rêves. Voilà.
aujourd'hui, quand je rencontre des gens et que je leur parle de jeux de rôle, parce que ça vient assez vite dans la conversation avec moi, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler. Le pire du pire, c'est quelqu'un qui en a entendu parler, qui a un copain qui joue, tu vois, où c'est... mais elles savent que si je vous dis Donjons et Dragons, direct, ils savent ce que... les gens savent ce que c'est. Ah oui, c'est le truc là, oui, je vois ce que c'est. Tu vois, mais des gens qu'on n'a jamais entendu parler, enfin, je discute pas avec eux du coup. Enfin, c'est pas que je veux pas
Sont pas dans
discuter,
ton
ils
environnement,
sont pas,
quoi.
ouais, ils sont... mais non, mais ça peut être des gens que je rencontre au hasard, tu vois, au hasard, alors c'est pas sur des conventions de jeu de rôle, c'est sûr, mais tu vois, au boulot par exemple, tu vois, tu t'accroches avec une nana ou un mec, tu discutes un petit peu, on vient à nos passions, on discute de jeu de rôle, on dit, ah oui, ça me dit quelque chose. J'ai un copain qui faisait ça, tu vois. Et que ce soit, alors c'est marrant parce que homme ou femme, c'est
Ouais.
vraiment les deux. Il n'y a pas de. Souvent on dit qu'il y a moins de femmes dans le jeu de rôle, alors qu'aujourd'hui c'est clairement. Ça s'est renversé, et heureusement. Mais donc les deux sont capables de me dire ouais, je connais, quoi. Donc c'est devenu super, super commun, que ce soit le jeu de rôle ou les
Ouais.
cultures de l'imaginaire en général.
Mais le fait que et ça a des conséquences heureuses, comme effectivement le fait que le jeu de rôle se féminise, mais le métal aussi énormément,
Ouais,
hein.
bah
Sur
ouais.
les premiers concerts, t'avais que des bonhommes, hein. Quand t'avais les Simon Martre et tout, t'avais 97% de mecs, quoi. Maintenant, ça s'est énormément féminisé, ce qui oblige aussi le milieu à l'intégrer dans ses comportements.
C'est
Et
mais
ça,
positivement
ah
ou
oui, positivement, mais il faut qu'il, voilà,
il y
il
a encore un
faut
peu de travail?
Ouais, y a encore un peu de boulot, mais il y a un peu de boulot partout à ce
Ouais,
niveau-là. De toute façon, pas plus dans le métal qu'ailleurs, hein.
ouais.
Mais le métal, en fait, est arrivé, est passé du tout au tout, c'est-à-dire d'un milieu qui faisait peur, d'un milieu de gens dangereux, etc. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant et que je me tirais en loose day plutôt des cours parce que j'avais eu une accrède pour aller au concert de Marilyn Manson à Bercy. Quand j'ai dit ça à mes potes et tout le monde me regardait comme si j'étais complètement cinglé d'aller voir ce mec, quoi.
Ouais.
Alors que Marilyn Manson, aujourd'hui, ça y est, on a enfin compris
Ouais.
que c'était du que c'était
Un jeu,
que,
quoi.
que c'était bah, que c'était un jeu et puis que c'était du rock, que en plus c'est de la musique accessible, quoi. Tu vois, Marilyn Manson, ça
Ouais.
écoute très bien. Je me souviens à l'époque, on me disait ça, t'avais une pub pour Seat, où tu avais la reprise de Sweet Dreams de Manson,
Ouais.
et genre ils voyaient ça à la télé, à aucun moment ils percutaient que c'était Manson. Donc ça reste en plus quelque chose d'assez accessible, quoi. C'est pas.
Moi, Manson, je l'ai redécouvert, entre guillemets, j'ai découvert son qu'il était un personnage, lorsqu'il a fait une interview avec Michael Moore dans Bowling for Columbine.
Ouais.
Et j'avais adoré cette interview où il disait: Non, non, mais moi je suis normal en fait, hein, j'incite pas les gens à se tirer dessus, quoi.
Non, par contre, il en joue énormément. Et
Bien
c'est là que
sûr.
c'est son ambivalence, c'est qu'il en joue énormément.
Oui, mais ça
C'est
reste un
tout un
personnage.
artiste visuel. Et ouais, et puis il a déclaré aussi un jour, je suis une parodie de la pop culture américaine. C'est-à-dire qu'il s'inspire
Ouais.
énormément du cinéma, de la littérature, etc. Et de toutes ces choses qui. Voilà, c'est la culture populaire et les univers geeks et le métal, c'est très poreux, quoi. C'est pas du tout étanche, quoi. L'un influence l'autre constamment. Le générique de Duck Nukem Forever, il a été écrit
De
par Duck Nukem
à Duke
Forever.
Nukem,
Duck Nukem Forever. Il était composé par Megadeth, il était fait
Ouais.
par Megadeth.
Alors, je sais pas si les gens vont se rappeler de Duke Nukem, tu vois.
Ouais, mais Quake 2,
Ouais,
c'est Rob
Quake.
Zombie qui a composé la
Ouais.
musique. Enfin voilà, il y a toujours eu ces passerelles-là, elles existent depuis les années 80. Ça a toujours existé, en fait. Cette porosité, elle a toujours existé. Et elle n'a jamais été vraiment traitée. On le sait, on en parle, on est tous d'accord, mais personne n'a vraiment trop planché sur le sujet. Donc c'est ce qu'on va modestement essayer de faire parce que c'est un très très gros dossier et puis on n'a que 100 pages de toute façon.
Non, mais c'est super intéressant. Est-ce que tu sais si ces mêmes thèmes ou le même type de réflexion a été fait par exemple aux États-Unis? Est-ce qu'ils n'ont pas
Écoute, moi
ce.
j'ai fait pas mal de
Ouais,
recherches.
c'est pour ça.
Ouais, il y a. C'est pas Loudwire, mais c'est un webzine américain de métal. Ouais, je crois que c'est Loudwire ou Metal Injection, qui a traité en fait sur comment l'impact du métal sur la pop culture, mais disons que c'est pas un. C'est vraiment touché du bout des doigts.
D'accord.
En l'état, moi, c'est la seule source que j'ai trouvée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein, particulièrement aux États-Unis, où il y a énormément de publications destinées aux US, tirées à 5000 exemplaires, et puis, et puis ça y est, c'est fini. Donc il y a sans doute des choses, ou même des thèses de doctorants métalleux qu'on penchait là-dessus, tout comme on en a eu un qui a bossé sur le Hellfest, par exemple.
Quoi. Ouais.
Ouais, ouais. Sur le fait que c'était le pèlerinage des métalleux, enfin voilà, un sociologue.
Bah,
donc il y a sans doute ça qui a eu lieu aux États-Unis, mais bon voilà, nous en tout cas en France, c'est dans un truc accessible que tu peux acheter et que tu peux lire et qui est digeste, qui est illustré, où il y a aussi des quiz, des trucs, des petites respirations au milieu et tout, dans ce format-là, ça n'a pas été fait encore.
Non, mais moi je trouve que c'est une super bonne idée. Tu sais quand est-ce qu'il y a une date de sortie éventuelle?
Ouais.
C'est prévu pour quand?
C'est juin, je crois.
Ah, bah c'est bientôt.
Ah oui, bah, ça fait quelques temps qu'on bosse dessus, là.
Ah, ouais. Juin, c'est demain, presque, tu vois.
Ah, ouais.
Ah, c'est super.
Il me semble que c'est juin.
Ouais. Ah, mais ça m'intéresserait de mettre la main dessus, en tout cas.
Le bouclage, c'est fin mai. Ça, je peux te le dire.
Ouais,
c'est la seule date qui m'intéresse.
Ça, plus ça se rapproche, plus tu stresses, quoi. Et vous avez bien avancé?
Ouais, ça va. Au niveau des interviews d'artistes, c'est un peu compliqué, parce que les concerts reprennent. Et du coup, les mecs,
ils ont pas
ça fait quelques temps qu'ils ne sont pas joués. Ils n'ont absolument pas été soutenus par l'État, contrairement à Peugeot qui a reçu soin 5 milliards. 5 milliards, alors qu'ils ont fermé 15 jours. Voilà, compliqué. Mais bon, j'exagère, mais enfin, pas sur les 5 milliards, sur la fermeture de Peugeot. du coup, il faut qu'ils bossent, les mecs. Il faut qu'ils vivent, hein. C'est les saltimbanques, hein. Ils jouent pour
ouais, surtout que tout le monde n'est pas Megadeth, tout le monde n'est pas.
Bah non, de toute façon, les groupes américains, ça va être compliqué de les revoir tout de suite. Hein.
Ouais.
Ils sont très frileux au niveau du protocole et tout ça.
Ah ouais?
Il y en a quelques-uns qui sont, mais on se demande si Metallica sera là ou Hellfest cet été.
Ouais.
Parce que c'est un grand moment dans l'histoire du festival. Et ça fait des années qu'ils leur courent après. On va voir s'ils vont venir ou pas.
C'est marrant.
J'espère que ça va continuer de baisser.
Le Hellfest, moi, j'ai une amie. Tu vois, on discutait de plein de choses et tout. Et pour moi, elle était très variette, quoi, tu vois, la musique. Et tout. À un moment, je lui dis, tiens, on se voit ce week-end, machin. Elle me dit, ah, je peux pas, je vais jouer au Hellfest. Et dans ma tête, mais c'était tellement la personne qui, enfin, tu vois, qui avait aucun rapport avec ça, que j'étais super surpris. Et après coup, alors, j'étais surpris que connement, d'ailleurs, parce que c'est pas très intelligent de ma part d'avoir cette réaction-là. Et puis après, je me suis dit, ah bah oui, ok, d'accord. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de gens, tu disais 180 000 personnes. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup, en discutant autour de moi, beaucoup de gens qui avaient pris des billets pour le Hellfest, dans ma tête, et n'écoutaient pas de métal, quoi.
Mais t'en as beaucoup qui vont au Hellfest. C'est à nouveau, faut se méfier de ses rêves parce que finalement, le Hellfest au début, c'est vraiment l'entre-soi du métal, hein, et ça l'a été pendant longtemps avec toutes les limites que ça. Hein, mais aussi ses avantages, cette bulle, cette respiration où t'es avec des gens unis par une passion que dans ta vie, même dans ta vie professionnelle, etc. Aujourd'hui encore, bon voilà, tu fais, je dirais pas que, enfin c'est à des kilomètres de ce qu'on a pu vivre il y a 20 piges de ça, mais quand même, voilà, c'est pas un truc que tu cries forcément sur tous les toits devant
ton
directeur administratif financier. Mais aujourd'hui, maintenant, t'as beaucoup de gens qui vont au Hellfest, t'en as deux types, t'en as qui sont là pour jouer à se faire peur,
ah ouais,
bah, pour être dans un contexte de métal, ouais. Très très,
non,
très violent graphiquement, très et tout en étant tout en sécurité, quoi.
Mais attends, j'ai juste une anecdote. Un jour, je jouais avec une amie au Black Dog, tu sais, un bar à Châtelet.
Ouais,
un bar
de métal.
J'entre dans le bar et vraiment musique ultra métal, ultra violente. Là, spécifiquement violente, celle-là, parce que c'est pas toujours le cas, mais là, vraiment violente, death, mort, brutalité. Etc. Vraiment, j'étais là dans un truc, je sais plus où j'étais, quoi. Et à un moment, il y a le barman, il se penche vers moi. Mais vraiment, baraqué, tu sais, des trucs partout. Mmh. Et il me fait avec une voix hyper gentille, il fait « Je te sers quelque chose ?» Et il y avait un contraste énorme entre ce gars-là et la manière qu'il avait de me parler. Et en fait, je me suis aperçu que tous les gens étaient hyper cool. Ils étaient en train de discuter entre eux, mais vraiment, mais plus gentils que gentils, en fait. Tu vois, c'est vraiment sur un truc, limite, c'est enfin, bisounours, quoi.
Ouais.
Et derrière, tu avais des trucs, des chaînes, des bruits de chaînes arrachées, des gens qui criaient. Tu vois.
Ouais, mais en fait, si tu veux, quand le grand public comprend ça... Ben, il y va.
Ouais.
Parce que c'est le train fantôme.
Ouais,
t'as peur,
ouais.
Mais t'es en sécurité.
Ouais.
Alors t'as peur, t'es pas. Mais t'es dans un univers que tu connais pas, t'es dans un univers avec.
Avec des gens bizarres.
Avec des gens bizarres, une dynamique quand même anxiogène, quoi.
Ouais.
Mais tout en étant en sécurité. Et du coup, donc ça, c'est une première partie, mais ça, on y reviendra au fait que les métalleux sont des gentils. C'est pas tout à fait.
C'est pas toujours le cas.
t'as ce type de gens-là. Et puis, parce qu'il y a toujours Deep Purple, ZZ Top, voilà, des trucs plus easy. Et t'as ceux qui y vont parce qu'il y a System of a Down, il y a le groupe qu'ils aiment pas le métal, mais ça, ils aimaient bien. Et puis, un billet pour le Hellfest, ça coûte cher. Les 3 jours, c'est 350 balles.
Hein. Ouais.
Ils les mettent parce qu'ils font jamais de concert. Donc, une fois 350 balles dans l'année pour aller voir le groupe et faire des belles photos et tout, c'est cool. Et ça, ça remplit un festival en une heure. Ouais. D'autant plus que les gens, ils aiment bien, ils y passent du bon temps parce que c'est super le Hellfest. Hein. Du coup, ils y retournent après.
Tu me donnes envie.
Et puis après, t'as ceux qu'on portait le Hellfest, qu'on créait le Hellfest en y allant, à l'époque où personne, enfin où ça démarrait, où ça vivotait, ils ont failli mettre la clé sous la porte, hein, selon leurs premières éditions et tout. Et ben, ils ont plus de billets. Et du coup, c'est frustrant, c'est une frustration qui est normale, qui est liée, qui est normale pour celui qui n'arrive pas à avoir de billets, alors que lui, ça fait 10 piges qu'il va au Hellfest. Et puis, qui est normal dû aussi au succès du festival, qui ne va pas grandir, grossir éternellement, quoi. Donc ça, c'est aussi la rançon de la démocratisation du métal et du fait qu'on met enfin un terme aux idées reçues qu'on peut avoir dessus. Bah, du coup, ça devient populaire et puis ça va devenir mainstream. C'est déjà le cas. Hein. Et, ça commence déjà. Hein. Les métalleux... On a la sensation qu'ils sont tous gentils parce qu'ils sont là avec dans une espèce de tenue déjà de beaucoup très virile, tu vois, c'est le père Faclou, les cheveux longs, la barbe, les Rangers, machin, etc. Donc, et en fait, c'est des mecs normaux. Et du coup, on a le contraste en font des gens gentils. Moi, je suis dans le game depuis plus de 20 piges, hein, mais je connais très bien le milieu, je connais très bien, y compris le milieu parisien. C'est juste des gens comme tout le monde. C'est ce contraste, en fait, qui donne l'impression qu'ils sont gentils. Mais ce sont des gens comme les autres. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. C'est que ce n'est pas des mecs plus gentils que les autres. Faut pas jouer au con non plus.
Oui, mais la plupart des gens sont sympas de base.
Par définition, les gens comme tout le monde, il y a une majorité de gens sympas. Voilà. Il y a une majorité de gens sympas. Mais parfois, ça prend aussi un peu... Ça se permet, moi je l'ai déjà vu, alors j'en fais absolument pas une généralité, c'est vraiment quelques exceptions que moi j'ai déjà vécu, des mecs qui me connaissent pas, dans un bar métal ou quoi que ce soit, qui arrivent avec le costume Célio en sortant du boulot, qui ont absolument rien à voir avec le métal ou quoi que ce soit, et parce qu'ils sont un peu bourrés et tout, machin, parce qu'ils n'ont pas trop non plus habitude de ce qu'on boit dans ce genre de bar, arrivent et puis se mettent à avoir une familiarité qu'ils n'auraient pas eu s'ils étaient dans un bar normal, quoi. Les métalleux sont gentils. Et du coup, à un moment, le mec il va aller trop loin, et puis le métalleux il va remettre à sa place, et puis après derrière ça va pas bien se passer, quoi.
Ouais.
Ça arrive rarement,
mais
ça peut arriver.
Ouais, mais c'est comme si t'avais le même mec qui rentrait dans un bar et puis qui commençait à taper, à prendre le mec par l'épaule.
Mais si tu veux, la réputation du fait que les métalleux sont des nounours, tu vois, c'est ça que t'entends partout.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Cette réputation là donne un peu des ailes.
Ouais, t'as raison. Je me souviens peut-être un peu. Emballé, en fait.
Mais t'as raison. Mais si tu veux, moi, c'est l'analyse que j'en fais.
Ouais, je comprends.
Après près de 10 piges, à entendre que les métalleux sont des nounours. Moi, c'est l'analyse que j'en fais. Après, c'est pas une vérité absolue. Hein, mais...
Ouais, et puis moi, ça peut pas être une vérité non plus. C'est basé sur quelques expériences que j'ai. Je suis beaucoup. Pas du tout. Moi, je suis très fan de métal, j'aime beaucoup ça. Mais pas tout, comme tout le monde. Enfin, voilà. Y a des trucs qui me parlent, puis il y a des trucs qui me blessent.
Comme tout le monde, le métal, c'est de toute façon.
C'est tellement large. Voilà.
120 sous-genres.
Ouais, quelqu'un qui me dit j'aime pas le métal, c'est comme si quelqu'un me dit j'aime pas la bière ou j'aime pas le vin. Tu vois, t'as une telle diversité à chaque fois que tu peux en trouver un qui te plaît ou au contraire aucun ou tous.
Ouais, et puis t'as des nouveaux trucs tous les jours.
T'as des nouveaux trucs tout le temps.
Comme j'ai récemment découvert, il y a un an ou deux, qu'il y avait un groupe de métal qui s'appelait les Oakley Dickley.
Ok.
Tout le concept est basé sur Ned Flanders des Simpsons.
Ouais.
Il s'habille comme Ned Flanders.
Ils
ont la moustache, les lunettes, la chemise violette, le pull vert. Toutes les chansons traitent de Ned Flanders et ils sont, c'est tout leur concept. C'est que ça, tu vois. Ça avoine, hein, ça fait pas semblant. Hein, c'est rentre dedans. Hein.
Je suis tombé sur un groupe de métal un peu dans le même délire. Alors, pas Ned Flanders, mais c'est des Allemands, je crois, en chemise à fleurs avec des coupes au bol. Super vénère, qui font du métal super hardcore, mais avec des clips super drôles et puis une musique que moi je trouve écoutable, en tout cas, même si c'est hardcore.
Ouais.
Et c'est vraiment. Comment ils s'appellent ces gars-là? Je sais plus.
C'est des... pas, ça je sais rien.
C'est des Allemands qui jouent en. Bah, de toute façon, je mettrai le lien, je retrouverai d'ici à ce qu'on publie le podcast. Mais je retrouverai ça. Ouais, non, il y a, plein de délires comme ça, c'est vraiment.
Oh, ouais, c'est très très large. Genre, tu peux pas tout aimer.
Forcément. Non, 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 pas tout.
Je connais personne comme tout.
Est-ce qu'on peut revenir. Il nous reste, il doit nous rester une dizaine de minutes. Est-ce qu'on peut revenir sur. Un moment où tu as évoqué le fait d'éventuellement gagner de l'argent sur un autre projet. Est-ce que c'était celui dont tu viens de parler ou est-ce que c'est un autre projet? Tu me disais, si on était sur la discussion sur Star Wars, tu me disais, il faut qu'on ne peut pas évidemment gagner de l'argent sur un podcast de Star Wars parce que c'est protégé. Et tu avais éventuellement quelque chose en cours?
Ouais, bah avec Eldercraft, c'est Eldercraft qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a dit ce que je, qui m'a dit à voix haute ce que je pensais depuis quelque temps au fond de moi. C'était que faire de la fiction audio Star Wars, c'est super, mais au final, tu seras forcément limité. Limité dans ton univers et puis limité dans tes ambitions.
Elderfest, non, Eldercraft, qui t'avait contacté.
Qui ouais, m'avait dit qu'on était tout fort, que Star Wars c'était super, qu'il aimait bien ce que je faisais et tout, mais que j'allais être à un moment ou un autre limité.
Ouais.
Par le fait que c'est un univers qui appartient à quelqu'un d'autre, et que si à un moment tu veux vraiment t'éclater, casser, parce que c'est aussi un univers qui est. Enfin, fan de Star Wars, c'est terriblement exigeant. Hein. Enfin, le fandom de Star Wars pardonne rien, en fait. Je crois que c'est le pire que j'écoute. Il paraît que les fans de Star Trek sont pires. Bon, moi, j'ai un pote Trekkies à en mourir, qui me disait que les fans de Star Trek, c'était pire. Mais bon, je connais pas trop le fandom de Star Trek, il connaît pas trop le fandom de Star Wars. Donc bon. Et par contre, ils se retrouvent bien tous les deux avec le métalleux, qui est lui aussi terriblement exigeant. et donc, du coup, forcément, ça te limite. Et c'est lui qui m'a dit donc, ce que je pensais depuis longtemps, mais ça m'a fait du bien qu'il m'en parle, c'est qu'il était temps de créer sa propre proposition de SF. Quoi. L'idée de gagner de l'argent avec, c'est tout simplement de pouvoir réinvestir cet argent dans du matériel, plein d'autres choses comme des effets sonores. Ça coûte de l'argent, des effets sonores. Si tu veux pas les voler lâchement, ça coûte un peu d'argent. Et de développer le truc pour le faire connaître, le faire vivre, le nourrir. Mais je suis tout à fait à l'aise avec l'idée de gagner de l'argent. Mais si tu veux, l'idée, c'est de se lancer dans un projet qui va durer. Parce que les fictions audio Star Wars, j'ai pas fini avec, hein, même mes personnages, j'ai mis un truc dans les cartons, mais tu peux pas faire ça pendant 25 piges. Ouais.
Alors du coup, ce serait quoi le projet en question là? Tu peux en parler ou pas?
Ouais. Bah, je suis en train de bosser dessus là, donc carrément. Donc fiction audio, j'aime bien le format des Chroniques Galactiques, 6-7 épisodes d'un quart d'heure.
Ouais, c'est bien.
Un quart d'heure, c'est bien. Ça te permet d'en dire suffisamment, de dérouler un truc sans que ce soit trop long non plus. En 6 ou 7 épisodes, c'est de la soft SF, mais une soft SF crédible. Pas crédible scientifiquement, quoique on ne parle pas dans des trucs trop déconnants, mais crédible dans la construction de l'univers qui est proposé.
D'accord.
Quelque chose qui tient debout, qui est cohérent, qui n'est pas une dystopie. Parce que je pense que la dystopie, on commence à la toucher du bout des doigts là, dans la réalité. Ah ouais. On a tout dit sur la dystopie.
Bah, Star Wars, ce n'est pas une dystopie.
Bah, Star Wars n'est pas une dystopie. Mmh. Mais si tu veux, dans la SF, dans la science-fiction aujourd'hui, on est quand même dans une ère très dystopique, quoi. On propose beaucoup de choses qui sont pas super
sympas. Parce que ça crée des conflits, du coup c'est plus facile de raconter des histoires dedans.
Ouais, moi je peux te créer des conflits, me payer des bisounours, y a pas de problème. Hein. À partir du moment où l'homme est là,
ouais, y a quelque chose à faire. Là.
Tu peux créer un conflit comme tu veux. Hein.
Alors donc univers soft FS, soft SF, pas dystopique et original. Et donc tu veux créer une fiction, une nouvelle fiction. Audio dedans.
Ouais, une fiction audio, mais proposer un univers. L'idée ensuite, c'est que cet univers et ces personnages, les décliner, seront déclinables en roman, seront déclinables en jeu de rôle. C'est la chose à laquelle, dont on a parlé lors du Elderfest, en fait. Ouais. Hein, c'est l'idée, c'est de démarrer sur une fiction audio qui va poser toutes les bases de cet univers. Un univers sans réelle limite, où il peut se passer plein de choses, mais sans extraterrestres.
Et, mais c'est celui dont tu l'avais parlé.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Ah,
c'est
ok, cette d'accord.
Et à terme, de pourquoi pas en faire un bouquin jeu de rôle.
C'est pas Orest, non?
Ah non, Orest, c'est déjà sorti, ça.
Oui, c'est pour ça.
Ah non, moi, là, je suis en train de bosser sur la première pierre qui sera la fiction audio, et on y retrouvera tout l'ADN des Chroniques Galactiques, pas de voix off, enfin une mise en place de l'univers de 3 minutes, et puis ensuite plus de voix off, de l'humour, des personnages super hauts en couleur, des situations aussi où tout est possible, parce que dans les Chroniques Galactiques aussi, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai pas peur de malmener mes personnages, tu vois. Et du coup, tout est possible en fait, tout est possible. Mais dans un univers de SF aussi où je m'éclate pas mal, parce que comme là je peux faire ce que je veux, ça me permet de faire découler des personnages archi forts.
T'écris une bible à côté, non, pour garder une certaine cohérence ou...
C'est ce que Seb d'Eldercraft me pousse à faire.
Ah, tu vois.
Mais moi après, au début en tout cas, j'aime bien dérouler la psychologie de mes personnages en écrivant en fait, en les mettant en situation directement.
Ouais, enfin l'idée de la bible, moi j'avais fait ça pour une campagne de jeu de rôle. L'idée c'est vraiment de pouvoir te rappeler. Ils ont fait ça beaucoup dans Stargate, la série Stargate, où chaque épisode faisait des références aux épisodes précédents et avec globalement peu de contradictions. Et du coup, ça donne ça donne un suivi, un fil rouge qui est super kiffant,
ouais, quand tu écoutes depuis
le début, une cohérence qui est vraiment jouissive, je trouve, reconnaître.
Non, mais du coup, je m'y suis mis. Mais après, si tu écoutes les 3 saisons des Chroniques Galactiques... les fils rouges, les références aux épisodes, t'en as déjà plein.
Ouais, tu les as déjà. Non, mais
non, de toute façon, je le fais parce que justement, si je veux que ce soit un univers déclinable sur d'autres supports, solide, etc., il y a un moment où il faut que tu aies une bible, que tu aies un reminder. Ouais. Dis alors, attends, c'était quoi le nom de telle station, machin et tout.
Et il y a un nom au projet.
Ouais, ça s'appelle Marshalls.
Marshalls. Ok, chacun.
Ouais, parce qu'il y en a pas mal. L'idée c'est, enfin, je peux te faire, c'est de l'excuse.
Allez,
je peux
allez,
te
allez.
Faire, je suis archi nul en pitch.
Allez.
Mais je peux tenter quelque chose.
Vas-y.
Ça se déroule au 25e siècle, où on projette notre humanité dans l'avenir. Étonnamment, la planète Terre va bien. Elle est même plus en forme qu'elle ne l'a jamais été. D'un événement qui a fait que la planète Terre a été décrétée réserve naturelle et que on fait plus rien dessus. On chasse pas, on pêche pas, on ne fait pas d'industrie polluante, on ne fait rien de tout ça, c'est terminé. Du coup, ça a généré un exode assez massif dans l'espace, et cette galaxie qui commençait à se coloniser, s'est colonisée à fond. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas de fédération ou de gouvernement interplanétaire et tout, on a des gouvernements, des planètes, et puis des petites stations autonomes, des espèces de sectes bizarres, il n'y a que là-bas, etc. Et il n'y a pas de gérance, de gestion intergalactique. Du coup, en dehors de ces différents gouvernements, planètes, etc., c'est le Far West. Et du coup...
d'où les Marshalls.
D'où, le premier accord interplanétaire de toute l'histoire de la galaxie qui vise à créer une force qui s'appelle les Marshalls, qui ont autorité partout dans l'idée de faire, de ramener l'ordre et de faire régner un semblant de justice dans la galaxie.
Tu sais que ça me rappelle...
Alors à chaque fois que je le pitch, tout le monde me dit que ça me rappelle.
Chacun
me dit un truc complètement différent.
Ah ouais, bah c'est bien, c'est super.
Dis-moi.
Moi, je pensais à un dessin animé des années 80 américain où justement tu avais des Space Marshall avec des étoiles sur la poitrine et plus ou moins des étoiles holographiques. Il y avait des pouvoirs holographiques, des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir, mais dans ce que tu es en train de me raconter, je m'imagine des mecs avec des chapeaux de cow-boy et dans l'espace. Et ils montaient des espèces de chevaux mécaniques. C'était super bizarre. Mais peut-être que je l'invente.
Non.
Mais je me rappelle de ça. C'est un dessin animé des années 80 américains. C'est à l'époque de Mask et tout ça.
Un dessin animé, tu dis?
Ouais, c'est un dessin animé des années 80.
Je connais pas.
Mais ça sans doute
aucun rapport. Non, mais je regarderai, je chercherai. Non, ça n'a aucun rapport. Enfin, moi, je connais pas.
Oui, tu connais pas, donc ouais.
Et on ne sera pas dans une dynamique de western. On sera plus dans une dynamique de
flic,
en fait.
Il y a déjà Serenity.
Firefly.
Non,
on ne sera pas dans cette dynamique-là. Là, on n'est pas dans une dynamique de western, on est même plus dans une dynamique de flic new-yorkais, quoi. Tu vois?
Ah, c'est bien.
Mec en civil, qu'enquête, qui sont épités dans un univers où il y a de la tech. Bah, si tu veux, l'idée, là, après, ça va être dans le développement un peu plus poussé de l'univers, mais si tu veux, là, l'idée, c'est que c'est pas parce que tu vas sur une station spatiale un peu isolée que tu vas forcément tomber sur le truc... archi malfamés ou je ne sais quoi, ou à peine arrivés, ils vont se faire tirer dessus ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est que dans l'ensemble, l'univers est plutôt sûr.
Ça fonctionne. Ouais.
Dans l'ensemble, ça fonctionne. Le problème, c'est que c'est justement ce petit, ce, petit truc qui fonctionne pas. C'est-à-dire que t'as un criminel qui va faire je sais pas quoi sur telle planète, il va prendre son vaisseau, il va se tirer. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à la planète? Il est parti, quoi. Et c'est là que les Marshall interviennent. Ils vont chercher des fugitifs,
etc. C'est le FBI de l'espace.
Ouais, voilà, bah, c'est les US Marshall de l'espace, quoi. Ouais, c'est leur boulot. Hein. Et du coup, tu sais pas vraiment à quoi tu peux t'attendre. C'est-à-dire que tu vas arriver sur une planète terraformée qui ressemblera de loin à la Terre. Et au final, bah, ça peut tout à fait se terminer dans une usine désaffectée, dans un truc archi-glauque, sur une planète où tout va bien. Quoi, parce que c'est ça. Mm. Tu vas même dans les plus chauds de quartier, il y a des trucs un peu... tu sais jamais sur quoi... L'idée, c'est que tu saches jamais sur quoi tu puisses tomber.
Ok. Non, mais ça a l'air très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose?
Bah déjà, je te remercie de m'avoir invité, parce qu'on avait dit qu'on se faisait ça, et puis on l'a fait. Et ça, c'est cool, parce que parfois, on se dit plein de trucs, et puis finalement, la vie repense en cours, et
je fais les choses.
Ouais. Non, et puis voilà, moi, je suis content d'être venu.
T'es le bienvenu, si tu veux en dire, qu'on en fasse d'autres. Hein.
On a besoin de créativité, particulièrement dans un contexte qui est bon, au-delà de ce qui se passe à l'international et tout ça, de manière générale, sur les grands enjeux, je pense qu'on a besoin d'être créatif. Je pense que le jeu de rôle, là-dessus, ça aide beaucoup. C'est une très très bonne gymnastique pour s'évader et puis aussi pour partir sur des choses un peu plus légères, un peu plus positives. Après, positif ne veut pas dire utopique ou naïf, hein, simplement plus optimiste, plus positif, et que je pense qu'on a plus que jamais besoin de créativité et que les univers imaginaires sont là pour ça, et je pense aussi que c'est pour ça que ça marche bien en ce moment.
On en fait la promotion au quotidien, par nos écrits, par ce qu'on est en train de faire. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Merci, Willem.
Merci à toi.
Et à bientôt. Au revoir à tous.